Ghessan a été libéré le 16 janvier 2025 après avoir passé plus de 4 ans en prison pour avoir participé à une manifestation. Cette coiffeuse et mère célibataire n'avait jamais été active dans le domaine politique, mais son inquiétude croissante quant au coût de la vie l'a incitée à participer à un rassemblement. Elle a été poursuivie pour insurrection, jugée par un tribunal militaire et condamnée à 5 ans d'emprisonnement le 7 décembre 2021. Son cas a été présenté lors de la campagne « Changer leur histoire 2022 » d'Amnesty International. Plusieurs milliers de sympathisants ont alors appelé à sa libération. Amnesty International a en outre fourni une aide d'urgence temporaire pour soutenir Dorgelès et sa famille pendant la difficile période de sa détention. Le 16 janvier donc 2025, la cour d'appel a réduit sa peine et elle a été libérée. Voilà. Je crois que Clarisse, tu avais quelques chroniques donc culturelles et autres à nous présenter.
Oui, c'est ça. J'ai décidé, moi, je donnais pas des bonnes nouvelles, voilà. Mais j'avais envie de vous parler de films, d'expositions, de choses qui sont soutenues par Amnesty et qui ont lieu en ce moment ou vont avoir lieu. Donc là, je vais vous parler d'une exposition qui a lieu à Paris et qui, je vous redonnerai les dates, mais qui c'est jusqu'en avril 2026. Donc, les déracinés du climat. Donc, à la croisée des arts et des sciences, une grande exposition parisienne met en lumière les liens complexes entre migration et climat. Quel point commun relie une pointe de lance préhistorique, une installation des deux artistes Lucie et Georges Horta, une sculpture inuite et la célèbre photo Migrant Mother de Dorothea Lange. Toutes ces œuvres, d'époque et de cultures différentes, sont réunies dans l'exposition Migration et climat présentée au Palais de la Porte Dorée à Paris. Le parcours rassemble des objets archéologiques, des tableaux, des photos, des installations, des vidéos, mais aussi des témoignages de personnes directement confrontées au bouleversement climatique. Du Vietnam à l'Arctique, du Sénégal au Soudan, des récits personnels donnent à voir les conséquences concrètes d'un dérèglement qui concerne toute l'humanité. Les commissaires ont conçu cette exposition en collaboration avec un conseil scientifique. Parmi ses membres figurent François Gémen, rapporteur du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et spécialiste des migrations environnementales, et Sylvie Dufour, biologiste marine. D'une création de la plasticienne Inès Camasso, à une infographie poétique de Margaret Wertheim, en passant par des performances visuelles de Gazelle ou de Caiola, chaque pièce dialogue avec une réalité scientifique. Se déplacer en fonction du climat, c'est un comportement naturel du vivant, explique Elisabeth Jolis-Schimmels, co-commissaire de l'exposition. Mais la crise climatique actuelle connaît une évolution extrêmement rapide. La question du déplacement devient critique, car si les migrations liées à l'environnement ont toujours existé, le phénomène s'accélère de façon exponentielle. Sur les murs, un jeune homme cloue une tôle de métal sur le toit de sa maison. Un peu plus loin, une famille guide son bétail hors d'un champ inondé. Un enfant joue près d'une maison détruite au pied d'une falaise en train de s'effondrer. En observant les clichés de Cathy Orlinski, de Peter Caton ou de Laura Haino, on comprend pourquoi le mot « réfugié climatique » s'est imposé dans le langage courant. Pourtant, aucun texte juridique ne le reconnaît. La Convention de Genève ne considère pas le climat comme un motif d'asile. Les populations cherchent des solutions partout dans le monde, conclut Elisabeth Jolis-Schimmels. Maintenant, il faut une réponse collective. Il va falloir trouver des solutions ensemble. Voilà, alors cette exposition donc a lieu au Musée national de l'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée à Paris, et donc elle est associée avec des rencontres, des projections, des ateliers, et alors depuis le 17 octobre 2021 et jusqu'au 5 avril 2026. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant, ouais. Et c'est d'actualité.
Tout à fait. Et en parlant de migration, justement, je crois que tu voulais nous parler des gens qui viennent de RDC. C'est pas ça ?
Oui, attends.
Oui,
Je vais vous parler de musique. Oui. Voilà. Donc, je voulais vous parler. Alors, c'est rigolo parce que cet été, mon petit-fils, qui a 9 ans, m'a dit, tiens, tu connais pas Kinyata King Kongolo ? Je me suis dit, quoi ça, King Kongolo, King Kongolo ? Et il m'a envoyé de la musique. Donc, il avait chopé ça sur YouTube avec son père. Et en fait, il y avait un article dans la chronique du mois de septembre. Quelques semaines après, il y avait un article donc sur 5 Congolais dans le vent. Donc, une ligne de basse resserrée, mélodie simple et entêtante à la guitare, rythme effréné à la batterie et aux percussions. Voici la recette de King Kongolo, Kinyata, un groupe de 5 musiciens de la République démocratique du Congo, à la musique survitaminée. Alors c'est du punk rock artisanal, précise-t-il. Artisanal car leurs instruments sont faits maison à partir de casseroles, de téléviseurs ou de freins de vélo. C'est au sein de l'espace Ghetto Kota Okola, qui signifie ghetto, enfer, entrer, grandir, que le quintet a appris à transformer du matériel de récupération en instrument de musique. Un lieu de création artistique fondé par le mythique Bepson Elemba, tour à tour rappeur, danseur et inventeur à Kinshasa depuis les années 1990. À travers cette démarche, King Kongolo Kinyata espère sensibiliser son public à la nécessité du recyclage des déchets. L'écologie n'est pas leur seul engagement. Profondément marqués par la guerre civile qui sévit depuis leur enfance dans l'est de la RDC, les membres du groupe ont fait de Toko Lemba la chanson phare de leur premier album. Les paroles, écrites collectivement en lingala, interrogent « Qui a détruit ce pays ? Qui a détruit cette ville ? Qui les a remplis d'immondices ?» avant d'affirmer « Nous ne nous arrêterons pas d'en parler, sans arrêter de danser, pourrait-on ajouter ?» Voilà, donc on va vous faire écouter un petit morceau, justement de l'album Kinyata de King Kongolo.
Ben c'est justement le morceau dont tu viens de parler.
Et ben oui.
Quand on prépare l'émission, on essaie de faire les choses bien. Donc le voici, ce morceau.
Mabe, mabe, na na tondi si ba fule yo mabe, mabe, esto como me saco si la lleva.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'entendre donc la musique dont vous a parlé Claire Lise. Donc la chanson s'appelle Kiviata et c'est interprété par Kin Kongolo, des musiciens venus de République démocratique du Congo. Voilà, ben, comme j'ai la parole, je vais la garder. Et pour vous annoncer une autre bonne nouvelle, je reprends ma feuille. Donc cette fois, c'est une bonne nouvelle, toujours de l'année passée, de 2025, qui concerne l'Arabie Saoudite. Entre janvier et février, Amnesty International s'est mobilisé avec succès pour la libération de plusieurs défenseurs des droits humains en Arabie Saoudite. Le 7 janvier, le défenseur des droits humains et ancien prisonnier d'opinion Mohamed Al-Khatani a bénéficié d'une libération conditionnelle après avoir passé 12 ans derrière les barreaux en raison de son travail en faveur des droits humains. Le 13 février, Hassan bin Nasser Al-Ghamdi, enseignant de 47 ans, a été libéré après plus de 2 ans d'incarcération à l'issue d'un procès inique devant le tribunal pénal spécial. Arrêté en 2022, il avait été condamné à 20 ans de prison pour ses publications sur les réseaux sociaux critiquant le programme Vision 2030 du gouvernement d'Arabie Saoudite. Le 10 février, Salma Al-Shehab, étudiante en doctorat à l'université de Leeds, en Grande-Bretagne, et mère de 2 enfants, a été libérée après avoir purgé une peine injuste de 4 ans d'emprisonnement. À l'issue d'un procès manifestement inique, le tribunal spécial l'avait déclarée coupable d'infractions liées au terrorisme pour avoir publié des tweets en faveur des droits des femmes. Et juste un petit commentaire personnel pour compléter cette information sur Salma Al-Shehab. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, et je pense que c'est encore disponible en replay sur la chaîne Arte, un documentaire très bien fait sur l'histoire de cette femme et de son mari, puisqu'elle était à la fois, donc elle a la nationalité d'Arabie Saoudite et également anglaise. Et la BBC a fait un très très beau reportage très émouvant sur elle et sur son incarcération et sa libération. Voilà. Je crois, Clarisse, que tu avais encore des informations culturelles à nous donner.
Oui, et là, je vais vous parler de 2 films. Alors, le premier, c'est un documentaire donc, qui s'appelle « Tout va bien » et qui est un documentaire de Thomas Ellis. Et c'est un film soutenu par Amnesty International qui dure 1h26 et qui sortira le 7 janvier 2026. « Tout va bien ». Répètent les jeunes migrants exilés à Marseille lorsqu'ils envoient un SMS pour rassurer leurs proches restés au pays. Ce leitmotiv donne son titre au documentaire de Thomas Ellis qui s'intéresse au parcours de 5 mineurs isolés. En réalité, tout ne va pas si bien quand on quitte son pays pour fuir un avenir bouché, un mariage forcé ou des embrouilles familiales. Juge, éducateurs, camarades de classe, les interrogatoires se succèdent et se ressemblent. Partout, la même suspicion qui nourrit peur et insécurité. Quelle est leur histoire? Quel est leur âge? La caméra capte avec justesse la froideur clinique des tests osseux et dentaires censés établir la minorité de Tidiane. Et pourtant, le réalisateur qui filme en 50 mm au plus près de ses ados fait aussi entendre leur détermination. Ils ne se sont pas construits sur du solide, mais sur une faille. Et c'est de là qu'ils trouvent cette force impressionnante. Celle de Junior, ivoirien, qui s'accroche pour obtenir un titre de séjour, troquant son impeccable uniforme de serveur pour un survêt. Il se rêve footballeur pro, mais il travaille dur pour assurer ses arrières. Khalil, algérien, prospecte pour trouver un stage difficile à décrocher à cause de son faible niveau de français. Et en attendant, il sous-loue un contrat de livreur chez Uber Eats. Chacun cherche sa place, tous patientent entre deux. Commencé en 2019, le travail de Thomas Ellis s'inscrit dans le temps long, lui permettant de suivre les transformations de ceux qu'il appelle ses super-héros. Comme Aminata, guinéenne, qui choisit le jour de ses 18 ans pour annoncer son émancipation à sa mère. En Europe, c'est moi qui sais, lance-t-elle, avec une nouvelle assurance. Plus qu'un simple décor, Marseille devient un personnage à part entière, et notamment la mère, évocation du trauma de la traversée, mais aussi horizon infini, ouvert sur un avenir meilleur. Donc ce reportage documentaire donc dure 1h26, il sortira le 7 janvier 2026 et c'est un film soutenu par Amnesty International. Donc son titre « Tout va bien » de Thomas Ellis. Et je vais vous parler d'un autre film qui va sortir aussi en 2026 et qui s'appelle, lui, « Promis le ciel » d'Erigé Seiri. Alors, il sortira le 28 janvier 2026 et c'est aussi un film soutenu par Amnesty International. On oublie souvent que la majorité des migrants africains, donc environ 80%, se déplacent à l'intérieur du continent, rappelle la cinéaste Erigé Seiri. Si la plupart des récits migratoires portés à l'écran racontent un départ vers l'Europe, Promis le ciel, troisième long métrage de la réalisatrice tunisienne, ose le contre-pied. Ce film choral suit le parcours de trois femmes subsahariennes installées à Tunis. Marie, ancienne journaliste devenue pasteur d'une église évangélique, dissimule ses blessures intimes derrière une verve charismatique. Elle héberge Nané, ivoirienne, qui traficote pour envoyer de l'argent à sa fille restée au pays. Et Jolie, étudiante en ingénierie, seule du trio à posséder des papiers en règle. L'arrivée d'une fillette rescapée d'un naufrage bouleverse le fragile équilibre de ce gynécée et confronte chacune à son destin. L'histoire se déroule sur fond de montée de racisme et d'une chasse aux migrants orchestrée par le pouvoir tunisien. Insultes, harcèlement, dans la rue, rafles. Même Jolie, pourtant en règle, se trouve embarquée au poste et sommée de signer des formulaires en arabe qu'elle ne comprend pas. Quant aux voisins tunisiens, le climat sécuritaire érode toute velléité de solidarité. Malgré la dureté de leur vie en cul-de-sac, les personnages ne se réduisent jamais au statut de victime. Au contraire, ils incarnent une vitalité lumineuse, comme Nané, une ambition comme Jolie ou une capacité à se remettre en cause comme Marie. Donc c'est un film qui sortira le 28 janvier 2026, qui s'appelle « Promis le ciel », donc par la réalisatrice tunisienne Erigé Seiri. Et il est soutenu par Amnesty International.
Ok, très bien. Juste une petite bonne nouvelle encore, juste avant la deuxième pause musicale, on vous passera davantage de musique ce soir, comme c'est la période des fêtes, que d'habitude, le double, 4 morceaux au lieu de habituellement. Voilà, et cette bonne nouvelle concerne la Serbie. Un rapport, c'est toujours une bonne nouvelle de 2025, hein. Un rapport du Security Lab et du Bureau Régional Europe d'Amnesty International a révélé que les services de police et de renseignement serbes utilisaient un logiciel espion avancé ainsi que des outils de criminalistique mobile pour cibler illégalement des journalistes, des militants écologistes et d'autres personnes dans le cadre d'une campagne de surveillance secrète. L'entreprise Cellebrite, spécialisée dans le renseignement et la criminalistique numérique, a annoncé qu'elle allait suspendre la licence d'utilisation de ses outils d'investigation numérique pour certains de ses clients en Serbie, à la suite des révélations d'Amnesty International. Parallèlement, le procureur serbe pour les crimes de haute technologie, le médiateur et le bureau du commissaire à la protection des données personnelles ont lancé chacun une enquête s'appuyant sur les conclusions du rapport. Voilà. Donc on vous passe tout de suite le deuxième morceau qu'on a choisi pour l'émission. On se retrouve juste après.
L'air slave, Jules l'air slave. Je suis né à Ville d'Avray, mes parents étaient bien français. Ma mère s'appelait Jeanne et mon père Victor. Moi je m'appelle Igor. Mon prénom m'évoque, pas le Languedoc, plutôt moscovite, il est explicite. Quand on m'imagine, on voit un barine qui s'apprête à boire à son samovar. L'air slave, j'ai l'air slave. Et ça me poursuit depuis tellement longtemps que je suis devenu slave malgré moi et sans m'en apercevoir. L'âme slave, pardon. chien de rue, sans moi c'est le prénom, mais ça suffit bien. Oui, à force d'entendre, ouais, tous les gens me prendraient, ouais, pour russe authentique, ouais, j'en ai tous les tics, ouais, j'habite de Zakous, ouais, je bouffe des pioches, ouais, je bois de la vodka, ouais, au milieu des repas. L'Amslav, j'ai l'Amslav. Je suis tellement influencé par mon prénom qu'à toutes les fenêtres de la maison, je viens de faire mettre des rideaux de fer. Mais je les laisse ouverts, j'ai l'Amslav.
Ouais.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc c'était un petit clin d'œil choisi par Claire Lise, un morceau d'Igelin. On est tous les deux, Claire Lise et moi, des nostalgiques d'Igelin, puisque le pauvre, il est mort, ça fait quelques années maintenant. Un grand musicien français, Jacques Igelin. Et donc, c'est un petit morceau ironique qui s'appelle l'Amslav. Et je pense qu'avec tout, je devine un peu pourquoi Claire Lise l'a choisi, on n'en a pas parlé. Mais avec tout ce qu'on entend sur, en ce moment, sur la Russie qui va, soi-disant, nous envahir, qu'il faut s'apprêter à leur faire la guerre, enfin, etc., etc., toutes les inepties qu'on entend par rapport à tout ça, je crois que c'est un petit morceau ironique, l'Amslav, effectivement, qui ramène juste, avec humour, un peu les pendules à l'heure. Voilà. On continue sur nos bonnes nouvelles. On en a beaucoup, hein. C'est très bien les bonnes nouvelles. Et c'est une bonne nouvelle qui concerne les Philippines. Toujours une bonne nouvelle de l'année qui vient de s'écouler. L'ancien président philippin Rodrigo Duterte, de sombre mémoire pour ceux qui l'ont connu, a été arrêté par la police sur la base d'un mandat d'arrêt décerné par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Petite parenthèse personnelle, comme quoi les mandats d'arrêt décernés par la Cour pénale internationale, ça peut avoir de l'effet, la preuve. Des milliers de personnes, majoritairement issues de milieux pauvres et marginalisés, ont été tuées illégalement par la police aux Philippines ou par des individus armés soupçonnés d'avoir des liens avec la police durant sa guerre contre la drogue, entre guillemets. Amnesty International appelait à son arrestation depuis plusieurs années et a décrit celle-ci comme une avancée remarquable et attendue depuis longtemps. Pour la justice, Rodrigo Duterte doit maintenant être jugé devant la CPI. Voilà. Donc, comme quoi il est passé de président criminel des Philippines à incarcéré dans les geôles de la CPI. Une autre bonne nouvelle, ce sera rapide, ça concerne la Turquie. Depuis mai 1995, les maires du samedi se rassemblent pacifiquement chaque semaine sur la place Galatasaray pour demander justice pour leurs proches soumis à une disparition forcée dans les années 1980 et 1990. Leur 700e veillée, le 25 août 2018, a été interdite et violemment dispersée par la police qui a utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau. 46 personnes ont été arrêtées. Elles ont ensuite été libérées, mais en 2020, elles ont été poursuivies pour participation à des réunions et marches illégales, sans armes et non dispersion malgré les avertissements. Grâce à la détermination des maires du samedi et de leur soutien, dont Amnesty International, qui leur a fourni une aide juridique, toutes ont été acquittées en mars 2025. Voilà. Comme quoi, effectivement, lutter pour ses droits, ça sert à quelque chose. On ne perd pas toujours et souvent, on gagne. Voilà. Je crois que tu avais encore, décidément, tu nous inondes de rubriques culturelles ce soir.
Oui.
Que tu avais une autre petite chronique culturelle pour nous.
Et bien là, cette fois-ci, c'est un podcast. Et donc, c'est, je vais vous parler d'une série qui a commencé au mois d'octobre, je crois, qui s'appelle « Et parfois on gagne ». C'est un podcast mensuel de Victoire Thuaillon, Claire Richard et Bertrand Guyot. C'est sur Arte Radio. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver sur Arte Radio. Et le titre là de l'article, c'est « La lutte, c'est classe ». De New York à Ljubljana, en passant par la France, d'après-guerre, un podcast de Victoire Thuaillon raconte comment les luttes collectives font parfois plier le pouvoir. On a beau manifester, pester, poster, protester, voter, pétitionner, souvent, on a l'impression que ça ne sert à rien. Et puis, parfois, on gagne. Ainsi débute le premier épisode d'une série mensuelle de 12 podcasts diffusés depuis septembre sur Arte Radio, intitulée « Et parfois on gagne ». Le programme a été écrit par Victoire Tuaillon, Claire Richard et Bertrand Guyot. Ce ne sont pas des contes de fées avec un héros ou une héroïne, mais des histoires de lutte collective d'hier et d'aujourd'hui. Le but est de contribuer à une culture de la révolte, explique Victoire Tuaillon à la chronique. Elle prête sa voix à chaque épisode de 30 minutes et raconte des histoires nourries d'archives. Le premier nous transporte à New York en 1969 dans le ghetto portoricain d'Est Harlem. Les Young Lords, intello révolutionnaires de 16 à 20 ans, rêvent de prendre les armes pour servir le peuple. Ils vont rencontrer des habitants avec une seule question. C'est quoi l'urgence ? Réponse : les ordures quasiment jamais ramassées. À défaut de fusils, les Young Lords saisissent des balais, nettoient les rues et demandent à la mairie d'augmenter la fréquence des collectes. Devant son refus, ils brûlent des poubelles en pleine rue. Après des semaines de lutte, la mairie cède. Le deuxième épisode se déroule en 2020 en Slovénie. Janez Janša, misogyne, fan de Trump, devient Premier ministre et instaure une politique autoritaire. À Ljubljana, pendant le confinement lié au Covid, quelques habitants profitent de l'autorisation de faire de l'exercice pour organiser des manifs à vélo. Elles vont durer 2 ans et fédérer l'ensemble de la société civile slovène. Aux élections législatives d'avril 2022, associations, ONG, collectifs artistiques et féministes s'unissent autour d'un manifeste de 138 propositions qu'ils envoient aux candidats. On ne vous dit pas pour qui voter, mais regardez qui soutient nos idées. Le Premier ministre sera battu. Le troisième volet revient sur l'histoire de la sécurité sociale. On sait que cette invention unique au monde est née en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, grâce à la Résistance. On sait moins que l'idée remonte à la Révolution française, puis s'est concrétisée dès 1928 avec la création de centaines de petites caisses mutualistes, syndicales et départementales. Pour unifier ce réseau et recruter les bénéficiaires, des bénévoles et surtout des militants CGT parcouraient les rues en faisant du porte-à-porte. Même si l'époque est très décourageante, que le contexte est morose, il y a et il y aura toujours de la rage, de la joie, des conquêtes patientes, de l'improvisation, conclut Victoire Tuaillon. Oui, parfois on gagne, mais jamais tout seul. Donc voilà, c'était la lutte, c'est classe. C'est pour revenir aussi un petit peu à la manif du 18 décembre, où je vous disais qu'il y avait le collectif Solidarité, mais il y avait aussi des syndicats qui étaient présents, oui. Et que c'est important, c'est ensemble qu'il faut résister. Je vous rappelle que nous sommes assignés à résistance face aux idées xénophobes qui montent, qui montent, qui montent.
Oui, mais elles finiront par retomber. Tu nous rappelles, c'est sur Arte, c'est ça ?
C'est Arte Radio.
C'est sur Internet.
Et c'est un podcast mensuel. Donc il y a déjà eu 3-4 épisodes, je pense, puisque ça a commencé en septembre, donc ça va continuer une partie de l'année.
Et donc, puisqu'on parle de podcast, on vous rappelle aussi que nos émissions d'Amnesty Évreux sur Principe Actif, vous pouvez réécouter tous les podcasts, ils sont mis en ligne très vite après les émissions sur le site de la radio, donc vous pouvez les réécouter.